La suite des matins de France Culture avec la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les médias du monde entier ce matin s'accrochent à des espoirs de paix au Yémen.
Des espoirs, il faut bien le dire, qui n'avaient jamais été formulés aussi clairement depuis 3 ans que ce conflit s'est internationalisé. Car cette nuit, rapporte Al Jazeera, un haut responsable politique des rebelles Houthis a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, un arrêt des frappes de drones et de missiles sur les positions de la coalition arabe. Les combattants chiites, soutenu, on le sait, par l'Iran, se disent donc prêts à discuter d'une cessation plus complète des hostilités si leur principal ennemi dans cette guerre, l'Arabie Saoudite, prouve qu'elle veut vraiment la paix. Et tout ça n'arrive pas par hasard au Yémen, nous rapporte Al Jazeera. Depuis la semaine dernière, la communauté internationale redouble de pression sur les deux camps pour faire renaître le processus de paix avorté en septembre. L'artisan de cette nouvelle tentative, c'est le Britannique Martin Griffiths, envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen. Et voilà ce qu'il déclarait vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
This is a crucial moment for Yemen. I have received firm assurances from the leadership of the Yemeni parties, the governor of Yemen, of course, first, and then Ansarallah, that they are committed to attending these consultations.
Voilà, nous sommes à un moment crucial pour le Yémen, disait donc l'émissaire Griffiths, qui dit avoir eu l'assurance des deux parties au conflit qu'elles vont participer aux négociations de paix qui doivent se tenir bientôt en Suède. Alors déjà, nous rappelle le Guardian depuis Londres, la coalition menée par les Saoudiens avait ordonné la semaine dernière l'arrêt des combats dans le port stratégique d'Odeida, où elle avait lancé une grande offensive quelques jours plus tôt. Les astres sont-ils en train de s'aligner au-dessus du Yémen? Peut-on parler pour autant d'une vraie trêve sur le terrain? Eh bien, pas vraiment, à en croire le journal d'Abu Dhabi, The National. Il rapporte que les Houthis ont lancé la nuit dernière 4 missiles balistiques sur la ville yéménite de Ma'riv, des missiles qui auraient été interceptés par les avions de la coalition arabe. À Riyad, enfin, Al-Arabiya salue la reprise par les forces saoudiennes de plusieurs villages après une énième offensive sur la région d'Odeida. Alors peut-on vraiment parler de cessez-le-feu dans ces conditions? Croire en la bonne volonté des belligérants? Pour Al Jazeera, le vrai espoir, c'est de constater que toutes les voix internationales pour une fois parlent de concert pour appeler à la paix. Les États-Unis en particulier semblent enfin prêts à user de leur influence sur leur allié saoudien.
Et en la matière, Camille, les Américains ont un atout dans leur jeu. La Maison-Blanche doit rendre public demain les conclusions de la CIA sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Oui, la question étant de savoir si ces conclusions vont ou non impliquer nommément le prince héritier Mohammed bin Salman comme commanditaire de l'assassinat du journaliste. Ce week-end, le Washington Post affirmait que la CIA était formelle sur cette implication de celui que l'on surnomme MBS, mais depuis, Donald Trump refuse de confirmer. Le président américain fait vraiment tout pour ne pas voir les preuves accumulées, affirme même le New York Times, qui cite les doutes exprimés hier encore par Trump sur Fox News sur le fait que l'on connaisse un jour la vérité, comme une fatalité qui ne semble pas lui déplaire. Pour vivre heureux, restons ignorants. Voilà l'approche du président sur le dossier Khashoggi, analyse Samantha Vinograd pour CNN. Elle en veut pour preuve ce refus de Trump d'écouter l'enregistrement sonore de l'assassinat du journaliste saoudien qui a été fourni par le renseignement turc. Il ne voit pas, Donald Trump, pourquoi il s'infligerait l'écoute de cette bande horrible au contenu violent et cruel où l'on entend sans filtre le supplice vicieux subi par un homme. Et cette surdité volontaire choque le Washington Post. D'autant plus que Trump garde ses oreilles bien ouvertes. Par contre, quand il s'agit d'entendre les dénégations répétées du prince héritier saoudien, son allié spectaculaire, comme il le qualifiait encore ce week-end. Cette alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, le président américain semble vouloir la protéger, la préserver autant que possible. C'est ce que nous redit le New York Times, d'où cette idée qui semble avoir les faveurs de la Maison-Blanche, se servir du dossier Khashoggi comme levier diplomatique pour obtenir de Riyad la fin de la guerre au Yémen, blanchir le prince héritier Ben Salman de toute responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi, serait donc une sorte de prix à payer pour espérer la paix.
Et on va terminer avec les gilets jaunes. Mais alors, les gilets jaunes en Belgique, avant de parler des gilets jaunes en France, puisque Martial Foucault, professeur à Sciences Po, s'installe. D'abord, la Belgique.
Oui, les Belges ont devancé les Français sur cette mobilisation des gilets jaunes. Les barrages routiers là-bas, nous apprend Le Soir, ont été mis en place dès vendredi soir. Le quotidien précise tout de même que la mobilisation outre Quiévrain est restée assez faible en nombre de participants cantonnés à la Wallonie. Et pourtant, elle a reçu un vrai écho médiatique dans la mesure où les gilets jaunes belges ont d'emblée visé des cibles stratégiques, les raffineries de pétrole avec les craintes donc qui s'ensuivent de pénuries d'essence, vite balayées tout de même par les autorités belges. En Belgique comme en France, le mouvement se veut l'incarnation d'une colère spontanée, populaire, apolitique contre la hausse des taxes sur les carburants. Et plus généralement, les gilets jaunes belges exigent la baisse de la TVA de 21 à 6% sur tous les biens de première nécessité. Et pour porter cette revendication plus loin, figurez-vous que les meneurs autoproclamés du mouvement ont créé un parti politique, un vrai, qui veut présenter des candidats même aux prochaines élections. Ils l'ont baptisé le mouvement citoyen belge et le soir d'ironiser sur la rapidité avec laquelle la récupération politique sera tombée sur les gilets jaunes. D'autant plus que le mouvement citoyen belge, eh bien, c'est un parti qui existe déjà. Pas sûr, conclut le quotidien de Bruxelles, que les centaines de citoyens qui bravent le froid depuis vendredi vont apprécier cette démarche. Ce qui est sûr, c'est que même en France, les forces politiques qui lorgnent vers le mouvement des gilets jaunes n'ont pas osé aller aussi vite en matière de récupération.